les rendez-vous de l'UNIS en partenariat avec Axéo Drieux-Combaluzier et Bâti Santé sur Radio Immo.
Et oui, bonjour, bienvenue toujours en direct du pavillon Dauphine pour les rendez-vous de l'UNIS. Rendez-vous assez spécial hein, puisque c'était en même temps l'Assemblée Générale de l'UNIS Île-de-France Grand Paris. Et du coup, je suis avec mes intervenants, mes invités. Céline Ming, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes courtier, conseil en gestion de patrimoine, membre du CNTGI, vice-présidente de l'Anacofi IMO. Vous êtes aussi chef d'entreprise, enseignante et formatrice. Olivier Principal, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes le président de la FNIM Grand Paris et puis vous êtes également un professionnel de l'immobilier, évidemment. Alors on va parler de la formation continue des collaborateurs, mais aussi du modèle d'autocontrôle des gestionnaires de patrimoine. On va peut-être commencer avec vous, Céline, qui représentez ces gestionnaires, hein, ces gestionnaires de patrimoine, ces conseillers en gestion de patrimoine. C'est vrai que dans ce secteur, c'est devenu une norme d'être autocontrôlé par des associations agréées. Qu'est-ce qui, selon vous, a permis cette structuration efficace, hein, puisque on va le dire, c'est efficace. Qu'est-ce qui a permis cette structuration?
Alors, la réglementation, il y a une grosse différence entre notre réglementation en finance, banque, assurance et les réglementations immobilières. Pour rappel un petit peu pour nos différents auditeurs et auditrices, l'Anacofi, c'est donc l'Association nationale des conseils financiers qui regroupe la principale association française et européenne qui regroupe les conseils en investissement, tout ce qui est courtage en banque et en assurance et de l'intermédiation immobilière. La structuration des métiers a évolué sur le plan européen depuis de nombreuses années, en finance avec une réglementation qui s'appelle MiFID 1, MiFID 2, et la nouvelle qui arrive, c'est notamment la RIS. Et le courtage a aussi évolué avec la directive d'intermédiation d'assurance, de distribution d'assurance, DDA, et puis la réforme du courtage. Donc, le fait marquant, c'est que dans les autres pays européens, il y a une réglementation qui est unifiée. En ce qui concerne l'immobilier, il n'y a pas véritablement de règles. Il y a même encore certains pays européens aujourd'hui qui n'ont pas de réglementation dédiée à l'immobilier et chacun peut faire de l'immobilier sans aucune contrainte. Donc pour que cette réglementation arrive jusqu'à nous, ça serait compliqué. Par rapport à la co-régulation qu'on peut avoir en finance ou la vérification qu'on peut avoir en courtage, on m'avait demandé notamment de témoigner dans un certain nombre de tables rondes aux côtés d'Olivier. Puisque effectivement c'est notre ADN, on est soumis à une réglementation extrêmement contraignante dans le cadre notamment de la gouvernance de nos cabinets et dans le cadre de notre relation client avec des process imposés, le tout étant vérifié régulièrement par nos associations professionnelles qui sont à adhésion obligatoire. Le fait marquant, ce qu'on voit, c'est que les professionnels, quand on a eu l'obligation d'adhérer, les professionnels sont beaucoup plus avertis. Alors, je ne dis pas que c'est une généralité. Il y a des professionnels en immobilier aujourd'hui qui n'adhèrent pas à des associations professionnelles et qui, pour autant, sont très au fait des réglementations et des évolutions parce qu'ils se donnent la peine de le faire par eux-mêmes ou ils sont structurés en interne pour faire comme ça. Cependant, il me semble qu'il y en a un certain nombre qui, parce que c'est humain, et quand on a la tête dans le guidon, c'est plus compliqué de penser à toutes ces choses-là qui sont extrêmement chronophages et qui sont immédiatement non porteurs de business.
Bien sûr.
Par contre, ne pas être en compliance réglementaire, en cas de contrôle...
Là, des porteurs de business.
Ça, c'est très, très compliqué. On peut être le meilleur agent immobilier. Ouais. Je pense que si on est vraiment en défaillance réglementaire en cas de contrôle de la DGCCRF, je pense qu'on peut dire au revoir à tout son business. Mais donc, voilà, le fait d'être co-régulé, d'être accompagné, ça permet une meilleure évolution des professionnels, ça permet de guider et ça permet de grandir. Et ça, je l'ai remarqué un certain nombre de fois dans d'autres domaines que l'immobilier précisément. Je pense par exemple au crowdfunding immobilier.
Oui.
D'avoir une réglementation dédiée et qui accompagne, c'est un peu comme la main d'un parent qui prend la main de ses enfants et qui accompagne. Ça permet de grandir, vraiment.
Alors Olivier Principal, est-ce que ce modèle d'autocontrôle pourrait, devrait inspirer justement le secteur de l'immobilier, notamment de la transaction et de la gestion immobilière, et si oui, comment et sur quel champ?
C'est une excellente question. En l'occurrence, une des réponses, c'est oui. En fait, on a un débat qui dure depuis un moment, hein, puisque la FNIM a demandé à ce que soit publié le décret sur la commission de contrôle du CNTGI, hein, la Commission nationale de transactions et gestion immobilière. L'objectif, c'était que les professionnels disposent d'un outil de contrôle des autres professionnels pour pouvoir sanctionner les moins vertueux, puisque la problématique dans notre métier, c'est qu'on a beaucoup de gens qui font bien leur boulot, mais on en a quelques-uns qui sont peu respectueux de leur clientèle et de la réglementation et qui tirent le reste de la profession vers le bas. Donc notre objectif à nous, c'est d'arriver à...
Vous pouvez donner des exemples, comment par exemple, c'est-à-dire ?
Ben, vous pourriez avoir des professionnels qui peuvent faire l'objet de plusieurs contrôles de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, pouvant aller parfois avec un retrait de carte. Mais avant d'arriver au retrait de carte, on pourrait avoir des plaintes de clients en permanence, des mauvaises actions, du non-respect de la réglementation ayant une conséquence négative sur le client et d'avoir personne qui, derrière, vient sanctionner. Avoir une commission de contrôle au CNTGI qui permettrait de contrôler les professionnels, de se saisir et de sanctionner s'il y a lieu, avant d'aller à l'exclusion ou à la radiation de la carte professionnelle, d'avoir des niveaux gradués de sanctions, ça permettrait déjà d'avoir une autorité de police qui ne vient pas que de temps en temps quand elle a le temps, comme la DGCCRF. Donc nous, on est plutôt favorable à cette mise en place de commissions de contrôle qu'on attend depuis la loi Allure et depuis la loi Elan, donc ça fait déjà 10 ans. En ce moment, il y a beaucoup de débats sur la création d'un ordre ou pas la création d'un ordre, et on trouve que le modèle qui a été pris chez les gestionnaires de patrimoine est un modèle qui nous semble vertueux parce que, effectivement, dans le paysage immobilier aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'être adhérent à un syndicat professionnel, donc il y a des professionnels qui sont adhérents, qui sont formés régulièrement, qui sont informés régulièrement et qui sont probablement meilleurs praticiens du métier. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc déjà, c'est un changement important. Et le fait que la profession s'auto-saisisse avec un organe de contrôle pour réguler les professionnels qui font mal leur job, ça permettrait derrière de relever le niveau de la profession et rassurer le consommateur sur la pratique des métiers et puis se dire que les gens qui font mal le métier de l'immobilier, le métier de l'intermédiation, de la gestion ou du syndic peuvent faire l'objet d'un contrôle et d'une radiation. Donc on est plutôt favorable à ce modèle qui, à mon sens, se présente le meilleur compromis sur l'ensemble des situations.
Et alors, quels seraient les freins à justement une montée en puissance de ce modèle, d'un tel modèle dans l'immobilier ?
Aujourd'hui, c'est un frein réglementaire. On a déjà du mal à mettre en œuvre la commission de contrôle prévue par le CNTGI, qui est un premier pas. Et derrière, bien évidemment, je pense que c'est l'étape qu'on souhaiterait atteindre, c'est celle qui a été réalisée par les gestionnaires de patrimoine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur un ordre, pas un ordre. La problématique de l'ordre risque de nous enfermer dans un modèle qui n'est pas moderne aujourd'hui. On sait que l'ordre n'est pas quelque chose qui est en vogue.
Pas moderne et très coûteux.
Voilà, coûteux en plus, difficile à mettre en œuvre. Alors
exclusif.
qu'on a d'autres modèles comme le vôtre, qui est un modèle qui correspond plutôt à la politique attendue aujourd'hui, notamment en matière européenne, et aussi une politique protectorale qu'on souhaite en France, protectrice du consommateur et du client. Donc nous, on est plutôt favorables à ce modèle. Ouais. On dit bravo aux gestionnaires de patrimoine.
Merci. Il a peut-être une chance d'arriver par la porte des diagnostiqueurs, parce que comme vous le savez, la baronne, députée la baronne, met en place une commission et nous sommes auditionnés mi-juillet.
À ce sujet.
Les modèles pour tout le monde.
Donc fin juillet. On va parler peut-être on va faire un focus sur les collaborateurs avec votre sujet, Olivier Principal, la formation.
Oui, parce qu'on peut pas décorréler.
Continue des collaborateurs.
On peut pas décorréler la sanction des professionnels les moins vertueux avec l'obligation de formation professionnelle qui existe déjà dans notre métier, hein, puisqu'un titulaire de carte professionnelle a une obligation pour lui et ses collaborateurs habilités de 42 heures de formation sur 3 ans ou 14 heures par an. Ça existe. Il n'y a pas de contrôle d'ailleurs sur les collaborateurs. Hein, c'est toujours une déclaration de bonne foi de la part du chef d'entreprise. Donc on a un sujet là-dessus. Mais ce qui nous semblait être nécessaire aujourd'hui, c'est de s'assurer que tous les collaborateurs qui n'avaient jamais été dans le métier de l'immobilier, qui n'ont pas de formation notamment, avant de s'entremettre pour le compte de l'entreprise vis-à-vis des clients, bénéficient d'une formation minimale avant enfin tout du moins au début de leur carrière, pour monter en compétences ces collaborateurs et qu'on ne vienne pas faire des raccourcis rapides en se disant de toute façon les professionnels de l'immobilier sont des ouvreurs de porte, ils n'ont aucune connaissance sur la partie juridique du droit de la propriété, le mandat, les obligations. Et nous, on a beaucoup milité, et d'ailleurs c'est une initiative de la FNIM, que d'avoir assigné en Conseil d'État pour obtenir la publication du décret sur la formation initiale des collaborateurs. Aujourd'hui, ce décret doit sortir dans quelques temps. C'est une victoire pour la profession de manière générale, parce que l'objectif de la FNIM, c'est quand même de faire monter en compétence l'ensemble.
Alors, vous pouvez nous expliquer en détail ce décret, juste pour nos...
Pour l'instant, le décret n'existe pas. Il apparaît.
Qui devrait sortir.
Les services du ministère travaillent sur le sujet. On n'a pas encore de...
Vous n'avez pas de source au ministère?
Non, on a des...
Vous avez des échos quand même dans les hautes sphères.
Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que la FNIM milite pour la réalisation de 42 heures de formation sur les 6 premiers mois d'activité du collaborateur.
Donc là, on parle de 42 heures. Hein.
Voilà, de 42 heures, parce qu'on ne voulait pas que les entreprises soient chargées par plus d'obligations de formation que ce qu'elles ont déjà. Aujourd'hui, on doit avoir fait, pour le renouvellement de sa carte professionnelle, 42 heures de formation. Là, on demande que le collaborateur habilité
passe
ses 42 heures au
démarrage
de son contrat. Ce qui est logique, ça ne fait pas une charge financière complémentaire pour l'entreprise. Et en tout cas, ça nous semble être le minimum qu'on puisse demander d'un collaborateur qui va accompagner les projets d'une vie, d'un propriétaire, d'un acheteur immobilier, d'un propriétaire en gestion, un locataire ou un copropriétaire.
Alors, dans votre, de votre côté, c'est 14 heures obligatoires, c'est ça
Pour mes métiers ?
Oui, pour vos métiers.
Alors moi, j'ai 43 heures par an.
Pas 43 heures, ok. Non.
Moi, j'ai 7 heures en finance, j'ai 15 heures en assurance, j'ai 7 heures en banque et j'ai 14 heures en immobilier, sachant qu'avec la nouvelle réglementation, la finance et la banque vont probablement monter à 15 heures aussi.
D'accord. Ce qui est une bonne chose, ce qui est une bonne chose.
Alors, de toute façon, se former, enfin, vu les évolutions réglementaires, législatives, jurisprudence, les nouveaux produits, tout ce qui peut être proposé, c'est évidemment une bonne chose. Après, voilà, il faut rester aussi dans quelque chose d'efficient, c'est-à-dire qu'il ne soit pas contre-productif et qu'empêche pas les gens non plus de travailler, parce que quand ils sont en délégation de carte, ils sont censés avoir l'accompagnement de celui qui a la carte. Donc il y a toute cette formation aussi continue, cet apprentissage en continu. Mais oui, pour nous, il nous semble, enfin aujourd'hui, l'immobilier est le seul pan de nos activités, enfin des métiers réglementés, même plus largement. L'immobilier aujourd'hui est le seul métier réglementé qui n'impose pas de formation initiale aux délégataires, aux équivalents mandataires. Donc pour nous, c'était effectivement essentiel que ce soit mis en œuvre. Pour nous, il est même essentiel que cette formation soit à l'initiale véritablement, c'est-à-dire avant de commencer toute activité avec le client, qu'elle soit indépendante de la formation continue, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre, bah oui, peut-être il va se frapper, je sais pas moi, 35 heures en janvier pour avoir sa délégation, et puis il fera quand même ses 14 heures dans l'année de formation continue. Parce que la formation initiale, ce n'est pas de la formation continue. Et c'est le contrôle qui va être important aussi à notre sens, c'est-à-dire que cette formation initiale devrait être pour nous validée de façon indépendante et en présentiel, et la formation continue devrait aussi être validée de façon indépendante, c'est-à-dire notamment par les CCI.
Les deux devraient être validés de façon indépendante. Pour conclure, Olivier Principal.
Je pense qu'on est sur une évolution réglementaire qui va élever la profession,
c'est
ce qu'on attend aujourd'hui.
Y compris les petites structures.
Oui, parce que en réalité, comme l'a dit Céline, l'évolution réglementaire et administrative, les normes, est telle que de toute façon, on manque jamais de formation. Et puis, on a aussi besoin de monter en compétence sur d'autres sujets. L'approche du financement, l'approche assurantielle, l'approche de la copropriété, de la rénovation énergétique. Nous, on a d'ailleurs milité pour qu'il y ait un volet rénovation énergétique ou tout moins transition écologique qui soit intégré dans la formation obligatoire des professionnels de l'immobilier, pour qu'on soit certain d'accompagner les objectifs gouvernementaux d'amélioration énergétique. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans cette dynamique positive. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de freiner des cas de fer pour en faire le moins possible. Nous, ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est que chaque collaborateur, chaque titulaire de carte, en tout cas, chaque collaborateur qui est amené à faire le métier de l'immobilier pour le compte des clients, soit quelqu'un qui démontre qu'il a les connaissances pour faire. Et voilà, nous, on veut des gens qui soient des bons professionnels et pas des ouvreurs de portes.
On est d'accord, c'est quand même le plus important.
Et ça peut être aussi très protecteur. Je vois par exemple qu'il y a des activités qui sont connexes à une activité principale immobilière, qui paraissent accessoires aux professionnels de l'immobilier et qui pour autant tombent dans des secteurs réglementés. Je pense à de l'assurance, la GLI, la MRH, la PNO. Je pense à de la préparation de dossiers pour un prêt immobilier. Je pense à la vente d'un club deal immobilier. Suivant comment c'est monté et comment c'est fait, on tombe dans des réglementations strictes et ça peut porter la personne à faire de l'exercice illégal de profession réglementée. Donc avoir des connaissances initiales pour savoir où on se situe et comment on le fait et le faire dans les règles de l'art, c'est pas que de la contrainte, c'est extrêmement protecteur pour soi et c'est à terme développeur de business.
Voilà.
Dans le cadre
c'est
de son activité.
Pour développer son activité sur d'autres pans.
Tout à fait.
On est d'accord.
Eh bien voilà, vous êtes en phase. Merci beaucoup à tous les deux. Et
merci
de nous avoir suivis en direct du pavillon Dauphine pour les rendez-vous de l'UNIS. À très vite.
Les rendez-vous de l'UNIS en partenariat avec Axéo, Drieux, Combalusier et Bâti Santé sur Radio Immo.